Matinale spéciale, élection présidentielle américaine 2020 avec Dimitri Pavlenko.
Il est 6h37 et à l'heure où je vous parle, Joe Biden est en train d'arriver à son QG de Wilmington où il va prendre la parole dans quelques minutes. Sur le plan maintenant des résultats en termes de grands électeurs, l'écart se resserre. Selon le comptage du Wall Street Journal, 223 grands électeurs pour l'heure pour Joe Biden, 174 pour Donald Trump. Victoire confirmée pour le président sortant, notamment en Floride. Gros pourvoyeur de grands électeurs, 29 sièges. Ça va se jouer beaucoup sur le Texas, la Géorgie, la Caroline du Nord, également point complet dans un instant avec Augustin Lefebvre. Mais pour l'heure, nous sommes en ligne avec un fin connaisseur des États-Unis. Bonjour Alexis Karklintz.
Bonjour Dimitri.
Du cabinet 8 Advisory. Alors, on le disait à l'instant, cette journée d'élections américaines, ce sont 4 élections en même temps. La présidentielle, évidemment, le Sénat renouvelé à un tiers aujourd'hui, et puis le renouvellement total de la Chambre des représentants, c'est-à-dire l'équivalent de nos députés. Tout d'abord, sur la tournure de cette nuit américaine, qui, une fois de plus, comme il y a 4 ans, déjoue les sondages qui donnaient tout de même Joe Biden vainqueur à 90%. Êtes-vous surpris, Alexis ?
Alors, oui, je suis surpris, même si, encore une fois, j'avais annoncé un scénario possible, qui était un scénario assez voisin de celui de 2016, c'est-à-dire un alignement des planètes pour le président sortant, pour Trump, avec une victoire dans tous les États du Sud, plus une victoire dans les 3 États swing states que sont la Floride, la Caroline du Nord et l'Ohio, et puis au moins 1, voire 2 États, de ce qu'on appelle le mur bleu, le fameux Blue Wall, c'est-à-dire la Pennsylvanie, le Michigan et le Wisconsin. Et là, il se trouve que Trump a remporté ou va remporter tous les États du Sud, à l'exception de l'Arizona, toutefois, qui semble s'orienter pour un vote Biden. Il va bien gagner l'État de Floride, l'État de Caroline du Nord et l'État d'Ohio. Et donc, d'ailleurs, ça a été confirmé. Et donc, maintenant, ça va se jouer sur la Pennsylvanie, le Michigan et le Wisconsin. Et Trump a besoin d'en gagner au moins 2 pour passer la fameuse barre des 270 grands électeurs. Or, quand on regarde les résultats provisoires, bien sûr, et temporaires, parce qu'il va falloir être très prudent et tout le monde annonce une nuit assez longue, semblerait quand même que Trump est bien parti, j'annonce Dimitri, bien parti pour remporter au moins 1, peut-être 2 de ces États, parce que même dans les comtés traditionnellement en vote démocrate, Biden est en tête, mais avec moins d'avance dans certains comtés clés que Clinton en 2016. Donc c'est une surprise, mais c'est probablement un très très bon score de Trump. Il est pour l'instant en situation plutôt favorable, même s'il va falloir rester prudent.
Alors, ce qui est frappant quand on regarde le détail avec un peu plus de finesse, le vote dans chacun des États, Alexis Karklintz, c'est clairement la ville contre la campagne, la ville pour Biden, la campagne pour Donald Trump. Je veux dire que si on comptait les voix au kilomètre carré, Donald Trump l'emporterait très très largement. C'est assez frappant.
Oui, c'est frappant, ça va être encore confirmé. C'est très impressionnant. Là, j'étais en train de suivre justement l'État de Géorgie. Vous savez, c'est un État du Sud qui était donné comme un État potentiellement, alors qu'il vote traditionnellement républicain, mais qui était donné comme potentiellement gagnable pour les démocrates. Et en fait, on s'aperçoit qu'en dehors de la grande ville d'Atlanta et de quelques villes, le vote est très, très, très majoritairement Trump, qui s'est même renforcé encore par rapport à 2016. Alors qu'effectivement, dans les villes, notamment dans les banlieues et dans les centres-villes, on voit, comme à Atlanta, que le vote est très, très favorable à Biden, presque encore plus que pour Clinton, mais ça ne devrait pas suffire. Il y a une vraie mobilisation de l'électorat de Trump dans les zones rurales et dans les zones industrielles un peu difficiles des États du Midwest. Donc voilà, ça va jouer à quelques voix, 4 milliers de voix encore, et notamment avec cette opposition zone rurale, zone urbaine.
Alexis Karklintz, on l'a dit, cette élection, elle oppose pratiquement 2 Amériques avec des électorats extrêmement polarisés, notamment sur leurs priorités ou encore leur perception. Je donne un exemple sur la perception de l'économie américaine. L'électorat pro-Biden le juge bon à 20%, c'est 80% chez les pro-Trump, et mauvais, pro-Biden, on est à 80%, pro-Trump 20%, et ainsi sur de nombreux sujets. La confiance dans le comptage des voix, elle est à 60% chez Biden, 38% chez Donald Trump, etc. etc. Qu'est-ce que ça nous dit aujourd'hui de cette Amérique? Ça a conditionné aussi le comportement de vote, parce que par exemple, ces votes anticipés ou par correspondance ont beaucoup été démocrates quand l'électorat Trump, lui, a préféré voter le jour J. La question de ces votes anticipés aujourd'hui, ça va prendre du temps de les compter aujourd'hui. Alexis Karklintz, est-ce que ça veut dire qu'on aura un résultat fiable d'ici quelques heures?
Alors, c'est difficile à dire pour le moment, Dimitri. Pourquoi? Parce que chaque État a ses règles en matière de décompte des bulletins, de dépouillement des bulletins. Typiquement, si on prend la Pennsylvanie et le Michigan, qui sont, comme je le rappelais, des États absolument décisifs et qui vont faire l'élection, hein, qui vont faire cette élection, le décompte de ces bulletins reçus en avance n'a commencé que hier, le jour de l'élection, alors que dans d'autres États, il avait commencé avant. Donc on voit bien le risque qu'il y a sur ces décomptes. Ça peut durer encore quelques heures, voire quelques jours. Et le scénario de contestation, si c'était un scénario qui avait été envisagé, devient lui aussi très plausible. On va voir, Biden va bientôt prendre la parole dans quelques minutes, on va voir ce qu'il va annoncer. Mais très clairement, on sent que l'élection n'est pas encore jouée. Ça va évidemment peser, enfin ses votes par correspondance vont peser, parce que précisément, dans les deux États que je viens d'évoquer, ça peut faire la différence. Voilà. Alors bon, Biden a l'air d'être visuellement en train de montrer qu'il est en train de gagner, mais je crois que ça va être beaucoup plus compliqué que ça.
Effectivement.
Et il va falloir attendre. Voilà.
Merci Alexis Karklins. Effectivement, vous le dites, Joe Biden est à la tribune. Il est en train de parler. Peut-on l'entendre ?
Ça allait prendre du temps. Faudra faire preuve de patience jusqu'à la fin du décomptage. Chaque bulletin doit être compté. C'est pas fini.
But we're feeling good.
Mais nous sommes confiants. Nous sommes confiants dans la situation actuelle. Une des chaînes avait dit qu'on allait peut-être remporter l'Arizona. Nous sommes confiants. Et du Minnesota, là aussi, on est toujours dans la partie en Géorgie. Mais ce n'est pas ce à quoi on s'attendait. On est confiants à propos du Wisconsin et du Michigan.
And by the way,
et soit dit en passant, ça va prendre du temps de compter, on va remporter la Pennsylvanie. Alors, en Philadelphie, les gens sont vraiment encouragés par la participation. On peut connaître les résultats dès demain matin, mais ça prendra un peu plus de temps, comme je l'ai toujours dit. Ce n'est pas à moi ou à Donald Trump de déclarer le vainqueur, c'est la décision du peuple américain. Je suis optimiste à propos du résultat.
Voilà, Joe Biden qui est en train donc de s'exprimer depuis son QG de Wilmington. Il va falloir être patient. On a confiance pour l'heure, mais ça va prendre du temps. C'est pas à Donald Trump ou à Joe Biden de donner le résultat, dit-il. Bon, discours aujourd'hui pour l'heure de motivation de ses électeurs. Il entretient la motivation, mais on reste encore dans l'incertitude de ces résultats qui sont finalement plus serrés. On va justement faire un point avec vous, Augustin Lefebvre. Y a-t-il des États dont on a les résultats un peu plus précis ?
Alors, deux résultats confirmés. L'Iowa pour Trump, ses six grands électeurs. Biden confirmé pour une victoire dans le Minnesota. Là, ses dix grands électeurs. Résultat à l'heure actuelle, projection du Wall Street Journal, 223 grands électeurs pour Biden, 174 pour Trump. Et les trois États dans lesquels ça va jouer, quatre États, le Wisconsin, le Michigan, la Pennsylvanie et la Géorgie. On attend encore les résultats. En Géorgie, ça penche plutôt, d'après les premières estimations, pour Donald Trump.
Merci Augustin Lefebvre. Effectivement, c'est toujours très serré. Joe Biden qui vient de quitter la scène, donc discours extrêmement court, pour dire simplement on a confiance et nous sommes démocrates en bonne voie de gagner cette élection. Donald Trump va-t-il prendre la parole ? Eh bien écoutez, pour le moment, on n'en a pas l'information. Gilles Moek, vous êtes avec nous. Bonjour, vous êtes chef économiste chez AXA Invest Management. Merci d'être avec nous ce matin. Bonjour Gilles.
Bonjour.
On va s'intéresser avec vous sur la perception de cette élection qu'ont les marchés. Évidemment, les marchés suivent très attentivement cette élection. Et finalement, alors si je résume la position des marchés, Biden ou Trump, on s'en fiche. L'important étant d'avoir un résultat clair et net, si je puis dire.
En tout cas, ouais, c'est ça. C'est la clarté qui était sans doute le plus important, en tout cas dans la réaction de marché de court terme. La clarté, non pas simplement sur le résultat de la présidentielle, mais aussi sur la capacité du président, quel qu'il soit, à améliorer son contrôle sur le Congrès. Parce que les deux dernières années de Trump ont été marquées par une division du Congrès entre une chambre démocrate et un Sénat républicain, ce qui fait qu'on est, et on le voit aujourd'hui, dans cette difficulté à mettre en place, par exemple, un second paquet de stimulus budgétaires. On a une certaine paralysie de la politique économique américaine. Donc, ce que le marché veut savoir le plus vite possible, malheureusement, ça risque de ne pas être le cas, c'est non pas simplement qui est le locataire de la Maison-Blanche, mais quelle est sa capacité de manœuvre. Et sur les deux plans, à les minutes où on parle, on est quand même en brouillard.
On est dans le brouillard, dites-vous, Gilles Moëc. Et ce scénario d'un résultat qui pourrait mettre du temps à arriver, puisque l'un des messages que vient de délivrer Joe Biden à la tribune, c'est de dire aussi qu'il faut empêcher Donald Trump de revendiquer la victoire avant dépouillement total de ces fameux votes par correspondance, qui, comme nous le disait Alexis Karklins à l'instant, a démarré dans certains États, mais pas dans d'autres. Peut-être n'aura-t-on le nom du président des États-Unis que d'ici quelques jours.
Alors, il y a même plusieurs étapes derrière tout ça, parce qu'il y a une première étape qui consiste à avoir les premiers résultats des décomptes au niveau des États. Par exemple, de mémoire, le Michigan a dit qu'il était sans doute incapable d'arriver à un compte précis, possiblement avant vendredi. Ça peut prendre encore plus longtemps dans l'État de Pennsylvanie. Donc ça, c'est la première étape. Réussir à compter, c'est l'étape, disons, manufacturière, le process, le comptage. Ensuite, si le résultat est serré dans plusieurs états, on peut avoir une deuxième étape avec, en fait, une contestation du résultat devant les tribunaux. C'est ce qui s'est passé en Floride en 2000. Et ça ajouterait encore plus, ça pourrait ajouter plusieurs jours, voire, dans les scénarios les plus extrêmes, plusieurs semaines à l'incertitude. J'ajoute pour enfoncer le clou sur cet état d'incertitude que l'une des élections que les démocrates souhaitaient pouvoir gagner au sénatorial en Géorgie fera l'objet d'un deuxième tour qui n'aura lieu qu'au mois de janvier. Oui. Donc si par exemple c'était extrêmement serré sur le résultat au sénatorial, il faudra attendre jusqu'au mois de janvier pour savoir vers où penche le Congrès. Donc il y a vraiment deux, trois, voire quatre étapes avant d'avoir une image complète de ces élections américaines.
Les marchés ont-ils été myopes sur cette élection, Gilles Moëc? Je vous pose cette question parce qu'hier, je regardais le CAC 40, on terminait en très forte hausse, plus 2,4%, on était à plus de 2% lundi, soit la plus forte hausse en 5 mois. Après une semaine précédente, la semaine dernière, absolument catastrophique, la plus mauvaise depuis 6 mois. Donc on a l'impression d'un regain de confiance sur la certitude d'un scénario d'élection franche et claire. Les marchés se sont-ils trompés, d'après vous, en début de semaine?
Les marchés font avec l'information dont ils disposent. L'information dont ils disposaient...
C'était les sondages.
C'était ouais. Les sondages, et les sondages étaient plus clairs qu'en 2016. Ouais. On est non pas simplement au niveau national, mais aussi au niveau des États, les fameux États là qui vont être décisifs dans les jours qui viennent. On avait une avance de Biden dans tous les cas en fait. Et s'ajoutait à ça le fait que le nombre d'indécis dans les sondages était beaucoup plus faible qu'en 2016. Donc on disait voilà, non seulement on a une avance de Biden qui est plus claire. Mais en plus, il semble que cette avance soit plus robuste parce que oui. Le monde d'ici est beaucoup plus bas. Donc voilà, les marchés font avec l'information disponible et oui. Il était assez univoque.
Hein. Gilles Moëc, on peut préciser que sur ces fameux électeurs indécis, ils étaient près de 10% à se déclarer comme tels en 2016, à peine 5% cette année. Mais ce que dit Donald Trump, ce que disent les Républicains, c'est que dans ce lot d'indécis, il y a beaucoup de « shy Trumpers », c'est-à-dire des électeurs de Donald Trump qui ne veulent pas le dire aux instituts de sondage, qui préfèrent dire « je suis indécis » plutôt que « je vais voter pour le candidat » républicain, une sorte de vote caché quelque part pour Donald Trump qui fausserait eh bien, les estimations qui ont été établies avant l'élection.
Ce qui est possible, parce qu'il y a eu beaucoup de recherches là-dessus depuis 2016 sur ces fameux électeurs de Trump cachés. Ce qui est possible, c'est que les sondages ont peut-être raté, c'est l'étendue de la mobilisation en fait relative entre démocrates et républicains. C'est pas tant qu'on a raté des électeurs de Trump cachés, c'est le fait que la capacité de mobilisation des républicains a été plus forte que ce qui avait été envisagé. Ce qui est un tout petit peu différent de l'idée de voilà, les gens ne remportent pas dans les sondages leur vraie inclination, mais il y a pu y avoir un déficit, pas un déficit de mobilisation, parce que oui. La participation générale est beaucoup plus forte qu'en 2016, qu'en tout cas les républicains ont mieux fait leur travail de quadrillage du terrain que les démocrates.
Gilles Moëc, restez avec nous. On va aller voir Augustin Lefebvre pour faire un point justement sur l'ensemble de ces élections, la présidentielle, mais aussi les sénatoriales et celle à la Chambre des représentants, parce qu'évidemment, c'est toute la carte du pouvoir des États-Unis qui est en jeu aujourd'hui. Augustin, où en est-on sur ces trois élections?
Alors, au niveau des grands électeurs, pas de nouveaux résultats d'État. Toujours 223 pour Biden, 174 pour Trump. Une avance peut-être en trompe-l'œil, puisque de nombreux États clés, on attend encore les résultats dans ces États clés. La Chambre devrait rester démocrate et voir sa majorité renforcée. Au Sénat, en revanche, c'est encore incertain. Pour l'instant,